France Culture. Avoigny, épisode 4, Debout pour la science, ou Stand Up for Science, qui est le nom d'un mouvement qui s'est constitué dans les années 2023-2024 face au climato-scepticisme et face au mouvement anti-science du gouvernement de Donald Trump. Et c'est ce que nous allons voir dans ce quatrième épisode. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Je voudrais d'abord qu'on dise que nous avons changé de lieu. Nous sommes passés de Jussieu à Saclay. Changement de lieu, changement d'ambiance. Nous sommes dans votre bureau quotidien. Avec une particularité, c'est que nous sommes un peu bas. Et donc, nous sommes en sous-sol, et donc vous n'avez pas vu sur les nuages.
Ouais, mais vu sur un joli jardin intérieur dans ce bâtiment récent qui a permis de regrouper beaucoup d'équipes du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et c'est là où je travaille, en fait, ce lieu, à l'Orme des Merisiers, à Saclay, depuis à peu près 32 ans. Donc j'ai changé d'équipe, j'ai changé de thématique, j'ai eu des rôles différents, et c'est mon ancrage professionnel.
C'est un bureau assez sobre. Et vous disiez, en fait, je ne le décore pas tant que ça, je ne mets pas beaucoup de livres parce que j'ai changé 14 fois en 31 ans, j'ai déménagé 14 fois en 31 ans, donc au moins là, ça facilite les déménagements.
Oui, et puis en fait, l'essentiel de ce dont j'ai besoin se trouve plutôt dans mon ordinateur, en réalité. Mais j'ai aussi pas mal d'ouvrages ici, et puis quelques objets personnels.
Après votre expérience au GIEC que vous nous avez rapportée dans l'épisode précédent, l'épisode 3, je voudrais vous proposer aujourd'hui de parler de ces différentes vagues de climat scepticisme auquel vous avez dû faire face par le passé et auquel vous devez faire face aujourd'hui. Et je précise que nous enregistrons ces émissions en octobre 2025. On pourrait repartir en fait de votre première expérience de ce climato-scepticisme qui remonte à mars 2010 face à Claude Allègre, ancien ministre et géologue. Qui était invité sur le plateau d'une émission de France 2 à l'occasion de la sortie d'un livre, L'imposture climatique. Vous nous racontez cette expérience, vous étiez seul face à lui.
En fait, mon expérience du climato-scepticisme, elle remonte à mon début de thèse dans les années 90.
Allez, encore plus tôt.
C'était foisonnant, notamment dans les pays anglo-saxons. Et puis souvent, les argumentaires qui étaient développés dans les pays anglo-saxons arrivaient, repris, amplifiés. Ça a été montré par la suite, par des historiens, tout un rôle de marchand de doute, notamment des industries fossiles aux États-Unis, qui ont utilisé des méthodes de relations publiques pour développer des argumentaires rhétoriques, en fait, fallacieux. Hein. Donc c'est des approches, en fait, de déni scientifique. Ensuite, soutenir la participation dans des débats médiatiques, voire des débats parlementaires, de scientifiques d'autres disciplines, qui, en fait, visaient à semer le doute dans l'esprit du grand public par rapport à l'état des connaissances qui était déjà très solide dans les années 90 sur l'origine liée aux activités humaines, du changement observé et de l'ampleur des risques. Et donc en France, ça a été notamment porté pendant longtemps par Claude Allègre et d'autres personnes.
Vincent Courtillot, par
exemple. Moi, je lisais attentivement leurs travaux suite en fait à l'échec de la conférence de Copenhague, ce qui a été présenté comme un échec en 2009, il y a eu également un hiver un peu rigoureux. Et suite à cela, il y a eu effectivement un boulevard médiatique accordé à ses collègues géologues, éminents scientifiques de leur domaine, et qui finalement ont utilisé leur reconnaissance scientifique, mais aussi leur aura politique pour Claude Allègre, qui était ancien ministre, pour relayer des contre-vérités au sujet des sciences du climat. Et ça m'a profondément heurtée, et je me souviens d'une journée où j'avais entendu les deux successivement sur des radios publiques, d'ailleurs, un le matin, l'autre le soir, avec des journalistes qui leur permettaient de dérouler un argumentaire où chaque affirmation était factuellement fausse. Et du coup, avec de nombreux collègues, on avait fait une pétition.
L'appel des 600.
C'est ça. Appelant à organiser un débat approfondi, notamment dans le cadre de l'Académie des sciences, sur l'état des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique. Et du coup, l'émission de télévision à laquelle vous faites référence, beaucoup de collègues avaient refusé d'y aller, des chercheurs plus émérites. Et par ailleurs, en appui à notre appel, nous avions fait une analyse factuelle des livres de Claude Allègre et Vincent Courtillot, en montrant en fait toutes les erreurs page par page, figure par figure, même des figures déformées utilisées hors propos. Il y a eu même des réfutations scientifiques de publications sur les liens activité du soleil et climat avec des analyses statistiques factuellement fausses. Ce que vous voyez bien, c'est que c'est très compliqué dans un débat un peu à vocation polémiste, comme on a maintenant en permanence d'ailleurs sur les chaînes d'actualité, d'arriver à montrer que des affirmations brutales et qui semblent pleines de bon sens sont en réalité fausses.
C'était votre première expérience de fake news ?
Alors, c'était une expérience de fake news. Et du coup, j'avais accepté, moi, de participer à ce débat dans une émission que je connaissais pas. J'en connaissais pas les codes. Mais j'avais préparé un argumentaire. Et notamment, en écoutant les affirmations de plus en plus énormes qui étaient assénées par Claude Allègre, un peu comme un match de judo, où en fait, l'adversaire est beaucoup plus fort que vous. Mais parfois, il est tellement confiant et il va tellement fort qu'il suffit de mettre un petit obstacle devant lui et puis il chute. Et donc, je me souviens que Claude Allègre, pendant ce débat télévisé, avait dit la preuve que le climat actuel, son réchauffement n'est pas inédit, c'est que, je cite, « au Moyen-Âge, Hannibal avait traversé les Alpes avec ses éléphants ». Et là, en fait, je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte de l'énormité de ce qui était dit. Voilà, il fallait quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose pour lequel le grand public puisse se rendre compte que, en fait, c'était un argumentaire faux.
Ce qui vous a pas empêché, Valérie Masson-Delmotte, de recevoir, après cette émission, des messages de soutien, bien sûr, mais des messages d'insultes aussi.
Alors, c'est quelque chose qui a été constant. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer publiquement, pas dans des rencontres publiques avec des gens d'horizons différents où on peut débattre et avoir une vraie conversation, mais à la radio ou à la télévision ou dans des interviews dans la presse, j'ai reçu des messages, en fait, intéressés de personnes de bonne foi qui ont envie de comprendre, mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages haineux. Et encore maintenant, je ne peux pas décrocher mon téléphone parce que de temps en temps, il y a des personnes qui se permettent de m'appeler pour m'insulter. Et donc, je suis obligée de filtrer mes appels. Suite à cette émission de télévision dont vous parliez, je pense que ça a été très constructif au sens où beaucoup de personnes se sont rendues compte de la posture qui était tenue, qui était une posture anti-science. Ensuite, le débat à l'Académie des sciences avait conclu à la véracité et à la solidité des travaux en sciences du climat. C'était un point important, ce côté, en fait, d'endosser, de soutenir les travaux des sciences du climat par l'Académie, qui a une forme d'autorité, je dirais, dans le paysage français. Et puis, par la suite, on a eu, en fait, une plus grande ouverture, je pense, aux connaissances issues des sciences du climat, notamment à partir des travaux très rigoureux dans les rapports du GIEC. Et puis plus récemment, j'ai vu émerger une nouvelle vague de désinformation et une nouvelle vague que j'appelle une obstruction.
Oui, on va y venir.
Ça n'est plus du climato-scepticisme au sens où le climato-scepticisme, c'était dire « ça ne se réchauffe pas », c'est un cycle, hein, vous savez, ce n'est pas dû aux activités humaines, ce n'est pas grave, les climatologues, leurs outils surestiment les risques. En fait, quand on voit ce qui se passe, c'était bien anticipé, puis la plupart des gens sont capables d'observer la gravité des impacts. Et donc, ça prend de nouvelles formes. Et ces nouvelles formes, en fait, ça ne cible pas que l'état des lieux par rapport au changement climatique, mais ça cible chaque levier d'action, chaque solution par rapport au changement climatique, pour en faire des choses qui soient clivantes, avec des caricatures. Et notamment, maintenant, la nouveauté, c'est les réseaux sociaux. Hein. Et j'ai vu notamment en 2022, au moment du rachat de Twitter par Elon Musk et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un glissement complet des algorithmes de ce réseau, qui en fait favorisait tout ce qui était clivant. Et moi, j'avais beaucoup investi sur la construction de fils pédagogiques pour donner à comprendre sur l'actualité en lien avec le climat ou le changement climatique, l'état des connaissances d'une manière précise et en même temps pédagogique. J'ai complètement arrêté parce que le réseau et le choix de donner du poids à ce qui était clivant dans les algorithmes, ça rendait invisible ce que j'essayais de faire et c'était des tombereaux de haine, littéralement. Donc j'ai fermé mon compte.
Alors, on va revenir, bien entendu, à cette nouvelle vague de climato-scepticisme dont vous parlez, Valérie Masson-Delmotte. Mais encore un mot sur cette première phase des années 2010. Vous citiez cet appel des 600, cette tribune qui réunissait des chercheurs en sciences du climat. Il faut quand même dire que cette tribune a eu beaucoup d'effets. Elle a été publiée à la une des journaux Libération et Du Monde le 9 avril 2010. Et c'est amusant parce que j'ai retrouvé cet article. Le Monde titrait « La passionnariat du climat ». À l'époque, vous aviez 39 ans et il insistait sur le fait que vous étiez inconnu du grand public. Donc quand on relit ça 35 ans plus tard, on le relit avec un sourire. Vous, ça vous fait pas sourire ?
J'avais en fait été très blessée par ce titre, qui n'était pas le titre du journaliste, mais du rédacteur en chef, au sens où passionnariat, ça avait un côté très émotionnel, et pas rationnel.
Oui, je suis pas sûre qu'on le titrerait comme ça aujourd'hui.
Et en plus, je me suis demandé si ce qu'on aurait dit si c'était un homme qui voilà. l'avait porté, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent masculin. Je comprends que passionnariat, ça a un côté militante féministe hein, sur beaucoup de causes. En réalité, hein, je le prends pas mal de ce point de vue-là. Mais sur le coup, ça m'avait blessée parce que c'était pour moi ancré dans quelque chose de très rationnel et très cartésien, je dirais.
Et pas émotionnel à ce point. En tous les cas, vous aviez fait un livre très cartésien, très rationnel, à la suite, paru au Pommier en 2011, Le climat, le vrai et le faux, qui est un livre atemporel, j'ai envie de dire, en tous les cas, qui met les points sur les i sur un certain nombre de choses. Est-ce que malgré tout, dans ces années-là, les années 2010, on va dire, est-ce que les scientifiques n'ont pas aussi une part de responsabilité dans, non pas dans la montée du climato-scepticisme, mais peut-être dans le retard de la prise de conscience. Si on se replonge dans ces années-là, c'est aussi l'idée, ce qu'on entendait, c'est aussi l'idée que les climatologues semaient la panique. C'est que on parlait de catastrophisme, on parlait d'alarmisme. Je pense que pour vous, scientifiques, à l'époque, la difficulté était de ne pas faire peur, de ne pas paralyser, tout en alertant. Et que parfois... vous avez peut-être eu du mal à le faire. Qu'en pensez-vous ?
Oui, et si on remonte aux années, entre les années 90, 2010 et maintenant, à l'époque, il y avait ce message de la communauté des sciences du climat qui disait « voilà ce qui va se produire. À mesure du réchauffement, on va avoir une aggravation des événements extrêmes comme les canicules, les vagues de chaleur, les sécheresses agricoles les plus extrêmes, la montée du niveau de la mer. » Et je pense, du point de vue du grand public, c'était perçu comme quelque chose qui allait concerner des générations futures ou des régions particulièrement fragiles. Et puis aujourd'hui, on prend la mesure partout de l'aggravation observée des impacts, hein, ne serait-ce qu'en France, l'augmentation du coût des assurances, hein, des événements à très fort impact. Il suffit de regarder l'actualité pour en mesurer la gravité aujourd'hui et partout, même dans les pays les plus riches. Et puis la deuxième chose qui a changé, c'est que par rapport aux années 90, où on comprenait le lien entre émissions de gaz à effet de serre, accumulation de chaleur dans le climat, maintenant en fait on a des leviers d'action. C'est d'ailleurs, on sait comment on peut décarboner la production d'électricité, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans le monde. On sait comment on peut faire pour diminuer les émissions dans le secteur des transports. On commence à avoir des pistes pour décarboner l'industrie lourde. Voilà. Et donc on est dans une situation qui est très différente, où je dirais au départ il y avait un rôle des scientifiques d'alerte. Ensuite, on a un rôle maintenant, et depuis, je dirais, les années 2000, souvent, de co-construction. C'est-à-dire que, dans mon domaine, j'ai des collègues qui vont chercher des connaissances, des informations climatiques, et écouter les connaissances, les besoins de différents acteurs, des entreprises, des collectivités locales, fournir une information utile en appui à la prise de décision. Donc moi, pour moi, on est dans cette phase-là de co-construction. Au moment même où il y a les années 2000-2010, peut-être cette impression de décalage dans la manière dont c'est perçu par le grand public.
Mais justement, dans cette façon dont c'était perçu à l'époque, est-ce que vous diriez que ces mots que j'ai utilisés, catastrophisme, alarmisme, faisaient partie de cette montée du climato-scepticisme ? Ou est-ce que, de fait, certains scientifiques, pas forcément vous, mais certains scientifiques s'y sont mal pris à l'époque ? Comment, rétrospectivement, vous voyez les choses ?
Il n'y a pas que les scientifiques qui s'expriment en réalité, ils ont une influence assez limitée. Il y a le choix du traitement médiatique, hein, qui était très souvent alarmiste. Il y a aussi l'expression des ONG, par exemple. Hein. C'est difficile de distinguer ce qu'est le choix de la communication scientifique, factuelle, avec les leviers d'action, etc. Et puis le reste, la manière dont c'est traité. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts de formation de très nombreux journalistes, pour de spécialistes de communication, de psychologie environnementale, qui ont compris qu'en fait, les messages anxiogènes, finalement, ça peut conduire à de l'éco-anxiété, conduire à ce sentiment parfois d'impuissance, qui sont en fait des moteurs du déni. On le sait bien, les personnes qui vivent dans des zones exposées à des risques, elles construisent un déni, parce que sinon on ne peut pas dormir tranquillement. Et du coup, ce qui permet de créer des ouvertures, c'est de montrer les capacités à agir, montrer ce qui a été engagé, ce qui reste à faire. Et je pense qu'on est plutôt dans cette dimension-là aujourd'hui, en termes de communication par rapport au changement climatique. Et puis ce qui a également changé hein, en 2015, c'est notamment la construction de l'accord de Paris sur le climat, qui a donné un cadre, et depuis... c'est important de le dire, les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés ont baissé plus vite et la hausse des émissions de gaz à effet de serre dans les pays émergents s'est fortement ralentie pour beaucoup d'entre eux. Même en Chine, il y a une baisse depuis un an. Donc on voit bien qu'on est sur un effort structurant d'action pour le climat qui a commencé à changer d'échelle, pas encore suffisamment. Et ça, c'est important à le souligner. Puis on a aussi également beaucoup plus de réflexion, d'efforts, de mise en œuvre sur l'adaptation à ce climat qui change. Et je pense qu'il y avait marqué les esprits en France à l'époque, c'était la canicule de 2003 qui avait eu une surmortalité très importante. Et il y avait vraiment eu à ce moment-là une prise de conscience importante de la gravité pour la santé, par exemple, hein, des conséquences du changement climatique déjà.
Malgré tout, malgré ces efforts, malgré ces progrès, malgré les efforts aussi politiques depuis l'accord de Paris, vous le disiez, Valérie Masson-Delmotte, on assiste depuis début 2025, disons, depuis la prise de fonction de Donald Trump à la présidence des États-Unis, dans son deuxième mandat, à un vent de panique sur les sciences du climat, très nettement, avec licenciement de scientifiques de l'Agence publique de recherche sur la météo et l'océan, la directrice du programme de l'acidification de l'océan mise à la porte sans ménagement, les chercheurs qui surveillent les alertes de tsunami, pareil, 8000 pages web sur le climat et la biodiversité ont été effacées des sites fédéraux, le terme changement climatique est devenu tabou et je pourrais continuer longtemps. Vous en faites vous-même la liste dans un chapitre d'un livre paru en octobre 2025 aux éditions du Seuil, Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie. C'est là que vous parlez d'obstructionnisme.
Alors, c'est des travaux de chercheurs en sciences sociales, en sciences politiques, en histoire contemporaine, qui ont analysé finalement la construction de cette obstruction par rapport à une action résolue vis-à-vis du changement climatique. Donc, une obstruction qui a été, en fait, l'héritage des marchands de doute, hein, dont je parlais tout à l'heure. Il faut lire, par exemple, le projet de la Fondation Heritage aux États-Unis, le projet 2025 qui inspire la politique du gouvernement Trump-Vance actuellement, qui est vraiment une vision pour un certain nombre d'intérêts particuliers déconstruction des bases scientifiques de la régulation environnementale. Comment est construit le droit de l'environnement aux États-Unis? Eh bien, par exemple, c'est le suivi des espèces protégées, des espèces menacées, qui étayent les actions pour éviter des atteintes, des pollutions pour l'eau. C'est les liens entre la santé, les inégalités environnementales, les revenus, le bien-être, qui étayent tout le cadre d'action pour la protection vis-à-vis de la qualité de l'air ou des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand vous avez des acteurs économiques très puissants qui ont des intérêts dans les énergies fossiles, ou bien dans les outils d'intelligence artificielle et le besoin de centres de données hyper énergivores, eh bien dans ce cas-là, vous allez soutenir par le financement de campagnes électorales des personnalités politiques qui, en contrepartie, vont attaquer le cadre du droit de l'environnement. Et du coup, bah, il faut attaquer la science. Donc c'est de la censure, c'est-à-dire il y a une liste de termes interdits sur des financements publics. Ces termes, ils portent sur les sciences du climat, les gaz à effet de serre, la pollution de l'eau, de l'air, tout ce qui est technologie verte, mais aussi tous les aspects liés aux inégalités environnementales, tout ce qui étaye une prise de décision fondée sur des éléments probants ou la science. Ces mots-là sont interdits. Ensuite, ce sont en fait des coupes budgétaires massives qui touchent essentiellement le secteur des sciences du climat, de l'environnement, de la santé environnementale. Tout ce qui va porter sur les inégalités, parce qu'on comprend bien que, notamment aux États-Unis, on a différentes communautés qui vont être exposées de manière disproportionnée à la pollution de l'eau ou de l'air s'il n'y a pas un cadre réglementaire. Donc ça, il faut l'effacer. Et donc, on a même des jeux de données qui ont été détruits. Et au fond, en fait, ce qui est vraiment ciblé, je dirais, avec une vision idéologique, et dans les attaques sur la science, c'est ce qu'on peut appeler toutes les sciences d'un développement durable, les sciences de la soutenabilité. Inégalité, climat, biodiversité, technologie propre, accès à l'eau, accès à une alimentation saine aussi. On voit bien que c'est l'ensemble qui fait l'objet de ces cibles. Et puis, peut-être de manière plus grave encore, donc il y a les purges que j'ai mentionnées, la censure, mais il y a également une intimidation très lourde. Cette intimidation, ce sont des menaces sur les dirigeants d'organisations, d'institutions scientifiques, ce sont des menaces sur les universités, finalement avec une approche qui consiste à les présenter comme des ennemis de l'intérieur. Les États-Unis, c'est un pays violent, avec beaucoup d'armes, et quand on jette en pâture à l'opinion publique le nom d'une personne, parfois son adresse, sa famille, Cette personne, elle a une cible dans le dos. Et c'est ce que redoutent beaucoup de mes collègues américains par rapport à une expression publique. Donc on voit que c'est un ensemble d'atteintes très graves à la liberté académique. Et le projet de budget qui est bloqué actuellement aux États-Unis, il visait une baisse des financements de la recherche fondamentale, la National Science Foundation américaine, d'environ un quart. Donc c'est presque une forme de sabotage sur l'organisation de la science telle qu'elle est, l'organisation de la science co-organisée par la communauté scientifique, notamment en lien avec la recherche fondamentale. C'est d'autant plus spectaculaire que les États-Unis ont été un des grands pays dont le développement, la croissance économique, le leadership technologique est le fruit d'un pacte, je dirais, pluriel entre les grands partis politiques pour le soutien à une science libre, au meilleur niveau mondial, dans tous les sujets, avec cette science qui avance et puis qui offre des opportunités d'innovation technologique.
Et des gros investissements, justement.
Et puis c'est un pays qui a été leader sur la protection de l'environnement, historiquement. Mes collègues américains, qui ne peuvent plus me parler, hein, ceux qui sont employés fédéraux, n'ont plus le droit de communiquer librement, ni avec leurs collègues étrangers, il faut qu'ils demandent l'autorisation, ni avec la presse. Donc quand ils sont licenciés, je peux leur reparler, ou ceux qui sont universitaires, je peux continuer à dialoguer. Parfois, ils me disent que on n'a parfois pas besoin d'ennemis quand on a son propre gouvernement qui détruit à ce point-là la science. Et je vais donner quelques exemples. Les centres de recherche sur l'adaptation fermés dans les régions. Deuxième exemple, une baisse du nombre de prévisionnistes météorologiques, donc une moins bonne alerte météorologique pour se mettre à l'abri. Des atteintes sur l'organisation fédérale qui permet d'aider post-catastrophe à gérer la crise et reconstruire, donc moins de moyens, moins de capacité d'intervention. Et puis la destruction du suivi des catastrophes naturelles ou climatiques à des coûts très élevés.
Face à ces attaques contre la science, coupes, menaces, intimidations, et tout ce dont vous avez parlé, Valérie Masson-Delmotte, un mouvement s'est créé, Stand Up for Science, en 2025, mais ça n'est peut-être pas seulement l'objet de la riposte ou les leviers d'action. La médiatisation est peut-être encore très importante. Peut-être que la prise de parole des scientifiques est plus indispensable que jamais.
En fait, pour beaucoup de personnes, c'est invisible ce qui se passe, les attaques graves sur la science aux États-Unis. Et c'est tellement grave que ce sont de jeunes scientifiques qui ont monté cette initiative, Stand Up for Science, donc avec des contrats précaires, parce que finalement, eux, ils voient bien qu'ils ont tout à perdre. Et ils ont presque plus de liberté d'expression que les professeurs établis ou les directions d'institutions scientifiques qui sont quand même assez fragiles. Et aux États-Unis, ce qui a bien fonctionné, comme je dirais contre-pouvoir, hein, ce sont les sociétés savantes qui ont défendu les droits des scientifiques sur des licenciements en fait non justifiés, par exemple. C'est l'Académie des sciences américaines qui a publié en septembre 2025 un rapport qui refait le point sur les liens entre émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, dégradation d'écosystèmes, perte de revenus, bien-être, santé des Américains. Donc un point très important. Et puis, plus largement, je pense que beaucoup de personnes peinent à prendre la mesure du lien entre la liberté académique et nos propres démocraties. Quand on regarde la construction de la République française, elle s'est faite contre des obscurantismes, contre un pouvoir autoritaire. Et l'héritage des Lumières, c'est aussi ça. C'est aussi, en fait, cette liberté académique, l'esprit critique, la pensée scientifique, qui permet de former des citoyens ouvert et des citoyens critiques. Et aujourd'hui, elle est menacée de plein de manières différentes. Elle est menacée par rapport au fléchage des financements, des priorités politiques sur des sujets de recherche. Elle est menacée parce que parfois, les institutions scientifiques ont envie de protéger les scientifiques d'une exposition sur des sujets sensibles en maîtrisant davantage la communication. Je le comprends pleinement, mais ça peut être aussi au détriment d'une prise de parole plus libre. Et donc, c'est un sujet, je pense, important. C'est un sujet qui n'est pas protégé partout de la même manière. Donc, en France, c'est considéré comme à vocation constitutionnelle, la manière dont c'est inscrit, mais plutôt pour les scientifiques qui vont être des universitaires, parce que c'est le rôle aussi des universités d'être les lieux de la pensée libre, de la liberté académique. Et souvent, c'est mal compris, ce rôle extrêmement important des universités dans cette direction-là.
Mais vous, vous défendez aussi beaucoup votre, je ne sais combien, énième casquette de scientifique. Votre rôle est au moins double, produire des connaissances, faire des recherches et les partager. Donc, vous défendez vraiment ce rôle de partage des connaissances, ce qui fait le pont avec le Centre Climat Société Sciences, dont vous parliez dans une émission précédente portée par l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui vise à développer la culture scientifique. Pour vous, ça, c'est fondamental.
Oui, et ça fait partie de nos missions. Par exemple, le CNRS souligne qu'il s'agit de produire et partager les connaissances. Le comité d'éthique du CNRS ou le comité d'éthique en commun dont je fais partie ont rendu des avis sur l'engagement des scientifiques et en soulignant à quel point, pour les enjeux justement liés à la protection de l'environnement, cet engagement des scientifiques est indispensable. Qui va parler pour la santé des sols ? Qui va parler pour l'océan ? S'ils ne sont pas notamment les scientifiques qui, dont les objets d'études sont ces milieux et dont les connaissances ont besoin d'être mobilisées. Donc c'est quelque chose qui est important et revendiquer un engagement, ça n'est pas du militantisme. C'est revendiquer de porter une voix scientifique, l'état des connaissances, sur la place publique pour faire en sorte que dans les délibérations, on tienne compte de ces connaissances. En tout cas, moi, c'est le sens de l'engagement que je porte. Que ces connaissances, elles soient enseignées, partagées, qu'on fasse monter le degré de compréhension de ces enjeux-là dans l'ensemble de la société, mais aussi parmi les élus qui souvent n'ont pas eu l'occasion de se former à ces enjeux du changement climatique ou de l'érosion de la biodiversité ou même des aspects liés à la pollution de l'air et la santé, par exemple.
Mais c'est du temps, ça, Valérie Masson-Delmotte. Je crois que vous passez près de 20% de votre temps à partager votre savoir. Vous continuez, malgré la fatigue, malgré d'ailleurs les attaques, encore, malgré parfois le harcèlement.
Oui, et puis on a fait d'ailleurs des formes un peu originales. Par exemple, aux éditions du CNRS, il y a eu un livre qui s'appelle « Tout savoir sur le climat ou presque », où finalement on a collecté les idées reçues, les fausses idées ou de la désinformation qui circulait. Et ensuite, il y a eu un travail par un médiateur vulgarisateur d'aller interroger les scientifiques porteur de connaissances, et ça a pris la forme d'un roman graphique qui a été très apprécié, notamment de lycéens ou d'enseignants, parce que ça permet de partir d'idées reçues, de donner à voir la méthode scientifique, comment on établit des faits, pour justement être outillé pour faire face à cette désinformation qui reste très présente. Donc je pense qu'on en a plus que jamais besoin de cette forme d'engagement et de la capacité à rendre accessible ce qu'est la démarche scientifique et ce qu'est l'établissement d'un fait qui n'est pas une opinion.
Quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'êtes pas si fatigué que ça. Au fond, vous avez raison de continuer. Une dernière question pour passer à l'épisode suivant, l'épisode 5, où nous parlerons des combats d'aujourd'hui et de demain et du rapport à la politique. Une dernière question. Qu'est-ce qui vous énerve le plus, Valérie Masson-Delmotte ? Est-ce que c'est le climato-scepticisme ou est-ce que c'est l'inertie, le cynisme politique qui conduit à l'inaction ?
En fait, je parlais tout à l'heure des rôles des scientifiques qui a changé, alerte, co-construction de connaissances, en appui à la prise de décision. Il y a aussi un rôle de chien de garde, hein, c'est-à-dire montrer quand ça déraille. Ce rôle-là, il est important. Il est important pour le donner à voir largement, donner à comprendre ce qu'est l'obstruction par rapport à l'action pour le climat, qui la porte, quelles sont les valeurs, les visions du monde, les intérêts particuliers. C'est un point très important. Et je pense que ce qui m'énerve, c'est pas le mot, parce que je m'énerve assez rarement, en fait, mais ce qui me touche le plus, c'est le cynisme, parce que je ne sais pas toujours comment y répondre.
On va poser la question dans l'épisode suivant, l'épisode 5, combat d'aujourd'hui et de demain. Merci Valérie Masson-Delmotte et à demain.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Valérie Masson-Delmotte, réalisation Félix Levacher, prise de son Thomas Robin, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.